Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. 50, c'est un chiffre important. C'est les 40 jours nécessaires pour refaire notre vie. 40 est un chiffre humain. C'est le temps d'une vie, d'une génération. 40 jours au désert, comme 40 ans au désert. Et 10, dans la tradition juive, c'est un chiffre divin. 10, c'est le nombre qu'il faut pour prier ensemble. Alors voilà, tous les efforts de l'homme, plus le don de Dieu, nous arrivons à ces 50 jours, la plénitude de ce qui a été promis. Vous l'avez entendu dans les Actes des Apôtres, cette plénitude, c'est la venue de l'Esprit Saint et l'Église qui va jaillir de cette première Pentecôte. Alors mon plan est tout simple, d'abord la venue de l'Esprit Saint, et ensuite la réception en nous de cet Esprit. Tout d'abord, la venue de l'Esprit Saint. Je vais répondre à la question « qui et comment ?» et dans la deuxième partie « quand et quoi ?» Vous voyez, j'ai fait très simple. Alors, la venue de l'Esprit Saint, qui et comment ? Qui ? Ben, c'est important de nous interroger, de savoir qui est vraiment l'Esprit Saint. Qui est cet Esprit sanctificateur qui existe dans les Écritures ? Il faut déjà toujours scruter les Écritures. Dès le début, dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est comme ça que commence l'histoire de l'humanité. L'Esprit Saint est promis dans le livre de la Sagesse, dans l'Ancien Testament, à ceux qui s'agrégeront au Seigneur. Cet Esprit, dans le Nouveau Testament, se manifeste très clairement à deux moments. Il se manifeste en fait dans beaucoup d'endroits, mais de manière éclatante et glorieuse, au baptême du Christ, quand il remonte des eaux. On vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe. Tout comme ici, à la Pentecôte, on vit comme des langues de feu. Alors, bien entendu, ces deux « comme » sont extrêmement importants. Nous ne sommes pas idiots. Nous savons que l'Esprit Saint n'est pas un oiseau. Nous savons que l'Esprit Saint n'est pas une flamèche de feu. Mais, que voulez-vous ? Nous n'avons que des mots humains pour décrire ce que nous voyons, ce que nous contemplons de la vie divine. Et les apôtres, Jean le Baptiste ou les apôtres qui ont vu quelque chose se passer, ont trouvé cette comparaison aérienne comme une colombe ou comme des langues de feu. Voilà. Il n'y a pas d'adéquation, c'est un symbole qui est utilisé, sémantique, pour essayer de saisir l'insaisissable, l'Esprit de Dieu. Alors cet Esprit, c'est Dieu lui-même, hein. C'est le Saint, c'est l'Esprit, donc il est Saint. Ce n'est pas une personne en plus, c'est une personne dedans. Comme par hasard, mais vous savez que le hasard n'existe pas, ou alors c'est le petit nom du Seigneur quand il agit incognito, hier soir, en rentrant tard de Chartres, tout réjoui d'avoir vu mon chapitre marcher, je croise dans la rue quelqu'un qui me salue bien poliment, je lui réponds, et puis qui me dit « Vous savez qu'il n'y a qu'un seul Dieu ?» Et alors je lui dis « Oui, vous savez, je les vois arriver de loin. Hein. » Oui, bien sûr, il n'y a qu'un seul Dieu, nous le savons, vous et moi, car j'avais bien compris que nous n'avions pas la même religion. Et il me dit, alors, pourquoi y a-t-il en plus un Esprit Saint ? Pourquoi associez-vous à Dieu un Esprit ? Alors, pour récurrente que soit la question, elle n'en est pas moins intéressante. Hein ? Parce que, c'est la vraie question, est-ce que l'Esprit Saint, c'est un autre Dieu que Dieu ? Ou est-ce que c'est une face de Dieu ? Bah, les deux sont une hérésie, j'espère que vous le savez. Non, l'Esprit Saint n'est pas un autre Dieu, nous n'avons qu'un Dieu. Il n'y a qu'un principe divin. Ce serait dommage que nous ne sachions pas ce que même les philosophes grecs avaient trouvé par la raison. Il ne peut avoir qu'une seule cause première, qu'une seule cause de tout, il n'y a qu'un Dieu, bien entendu. Et dans les religions dites monothéistes, où Dieu se révèle, nous le savons, il n'y a qu'un Dieu. Mais voilà, une chose est de savoir qu'il y a un Dieu, ce que nous savons et ce que vous avez compris, les musulmans savent aussi, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'il y a en Dieu. C'est-à-dire que, pénétrant en Dieu, il n'y a pas un monôme isolé qui s'ennuierait. Dieu est une perfection, Dieu n'est pas un homme mis en grand. Parce que c'est pour ça que nous n'arrivons pas à comprendre la Trinité. Hein ? Dieu, c'est une réalité en soi. Et en Dieu, il y a un échange perpétuel. Il est son propre esprit. On peut en faire une analogie très pauvre, mais j'essaye quand même. Si je vous dis que vous avez toute mon amitié, si je vous dis que mon ardeur et ma foi se portent auprès de ceux qui marchent aujourd'hui à Chartres, si même je leur envoie cette manifestation, comme par une langue de feu, par un SMS, eh bien, ils ne vont pas penser un instant que l'esprit qui pense à eux, qui les aime, bah, c'est un deuxième Abbé Laurent. Hein. Alors, il y a l'Abbé Laurent, le corps, puis il y a l'Abbé Laurent, l'esprit. Bah non, c'est le même. Si je me transporte, si je vous donne quelque chose de mon amour, c'est toujours moi. Parce qu'il ne s'épuise pas. Alors, chez nous, il s'épuise. Encore que ce qu'il y a de spirituel ne s'épuise pas. Mais Dieu est infini, il ne peut jamais s'épuiser, il se donne sans se perdre. Alors cet Esprit Saint, évidemment, il est important de savoir que c'est ce qui est profondément en Dieu. Voilà que nous avons la chance de pénétrer à l'intérieur du mystère de Dieu, nous qui savons qu'il n'y en a qu'un, nous connaissons ce qui se passe en lui par révélation divine, nous savons qu'en lui il y a un échange perpétuel d'amour, une création perpétuelle du Père au Fils à l'Esprit Saint qui est celui qui sanctifie. Voilà pour qui. Alors comment fait-on pour recevoir cet Esprit? Il y a des conditions, elles sont posées ici dans l'Écriture. Tout est dit dans l'Écriture. Il n'y a jamais rien de caché. Il n'y a jamais rien de caché pour ceux qui veulent voir. Nous ne sommes pas une religion à secret. Eh bien, il y a deux conditions essentielles. La première, elle est matérielle. Ils reçoivent l'Esprit alors qu'ils sont réunis tous ensemble. C'est-à-dire que c'est dans l'Église que l'Esprit se donne. D'ailleurs, les temps que nous vivons sont les temps de l'Esprit Saint. Un cardinal, au lendemain du Concile Vatican II, avait fait une déclaration que d'aucuns ont pu croire tonitruante. « Nous voici maintenant dans le temps de l'Esprit ». En fait, le temps de l'Esprit, c'est depuis la venue du Seigneur et depuis la première Pentecôte. L'Église vit, après avoir vécu la création, l'enfantement, la réalisation dans le Christ, nous vivons dans l'Esprit Saint le temps, les derniers temps, c'est-à-dire celui de l'Esprit, celui qui est communiqué à tous les hommes. C'est dans l'Église que vous recevrez l'Esprit Saint. Première condition. La deuxième, elle est explicitement dite par le Christ, notre Seigneur, eh bien, à ceux qui gardent ma parole et qui l'aimeront. L'amour est la condition de vie spirituelle. Effectivement, il n'y a rien de plus spirituel que l'amour. L'amour, même humain, est ce qu'il y a d'insaisissable, de non pétrifiable, de non représentable. On peut manifester des signes d'amour, mais on ne peut pas déterminer l'amour. C'est ce qui nous porte et ce qui nous fait vivre, ce qu'il y a de plus important à l'intime de nous-mêmes, et cela n'est enfermable dans aucune... Ce n'est pas réductible en aucune image, ce n'est pas réductible en aucun geste. Ce qui est spirituel, nous en vivons déjà, c'est l'amour. Et cet amour, il se porte à Dieu dans sa parole. Sa parole est vivante, c'est lui-même. C'est cette parole que vous êtes venu recevoir ce matin parce que vous l'avez écoutée à travers l'Écriture et que vous allez, que je m'essaye bien péniblement de l'expliquer avec la faiblesse de mes moyens, mais que vous allez recevoir pleinement dans l'Eucharistie, car vous le savez, la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. La parole n'est pas un livre, contrairement à ce que d'aucuns croient, je dis des bêtises, donc je suis puni moi-même. Et eh bien... Non, la parole, c'est le Christ vivant. Et tout à l'heure, vous allez la recevoir d'une manière ineffable et vous la recevrez vraiment parce que vous l'aimerez, c'est-à-dire parce que vous ferez une communion spirituelle. Là aussi, la communion n'est pas un acte matériel. Ce n'est pas matérialitaire que vous recevez l'Eucharistie, c'est spiritualitaire. C'est parce que vous le recevez spirituellement, aussi je vous invite à faire une communion spirituelle, désirée, comme le dit saint Thomas d'Aquin, en venant au pied de l'autel, recevoir Dieu lui-même, que que matérialitaire, c'est-à-dire que du coup, vous allez recevoir le corps du Christ. Voilà, pour mon premier point, la venue de l'Esprit-Saint. C'était le plus compliqué, peut-être. Car, voilà ce qu'il nous reste à faire, mon deuxième point, c'est cette réception. Comment faisons-nous pour vivre de cette réception ? Quand et quoi ? Quand recevez-vous l'Esprit-Saint ? Vous le recevez d'abord dans les sacrements. Vous l'avez reçu au jour de votre baptême. Rappelez-vous, Pierre qui rencontre ceux qui ne savent pas qu'il y a un Esprit-Saint. Vous avez été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De ce jour, vous avez été configuré au Christ et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous l'avez reçu certainement, pour ceux qui sont déjà confirmés, la plupart d'entre vous, vous avez reçu ces 7 dons. Ces dons, cette plénitude ineffable qui vous donne d'être vraiment chrétien. Et puis en fait, vous le recevez à chaque sacrement. C'est-à-dire tout à l'heure en communiant, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a pas de séparation en Dieu, en recevant le corps du Christ ressuscité, vous le recevrez dans son esprit, c'est-à-dire c'est l'esprit qui fait vivre, c'est encore l'esprit que vous allez recevoir en communiant. L'Esprit-Saint a été donné à la Pentecôte, et comme je l'ai dit il y a un instant, cette Pentecôte se poursuit jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est pourquoi il nous reste à désirer cette Pentecôte. Voilà pourquoi aujourd'hui est une grande fête et que nous nous réjouissons une fois de plus de recevoir. J'espère que vous avez beaucoup demandé. Et si vous ne l'avez pas fait, eh ben, faites-le. Vous avez le temps, hein. C'est aujourd'hui la Pentecôte. Demandez un don de Saint-Esprit énorme. Demandez beaucoup plus que vous n'espérez. Il m'a encore été rapporté récemment qu'il ne fallait pas trop demander et surtout pas demander pour soi. C'est une erreur. Le Seigneur ne fait que demander dans toute l'Écriture. Lui-même aujourd'hui prie son Père. Alors demandez et demandez beaucoup. Le Seigneur peut tout. Ne vous inquiétez pas, il vous donnera ce qui est bon pour vous, ce qu'il y a de meilleur. Mais demandez, demandez, demandez ce qu'il y a de plus spirituel pour que vous soyez comblés jusqu'à l'effusion de l'Esprit. Nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte. Nous voulons vivre de nouveau la joie de la naissance de l'Église. L'Église est jeune jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, si vous étiez hier sur les routes de Chartres, je ne sais pas, l'année dernière nous étions 11 000, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais vous comprendriez ce que veut dire la jeunesse de l'Église. Si vous aviez été au JMJ, si vous y étiez au JMJ cet été, si vous aviez vu ces 2 millions de personnes réunies sur un champ, vous auriez compris la jeunesse de l'Église. Tous les plus grands rassemblements du monde ne sont que des rassemblements chrétiens. C'est pas Woodstock avec 200 000 personnes, hein. 20 000, pardon, excusez-moi, c'est 20 000 personnes Woodstock. Hein. Le plus grand rassemblement du monde, c'est 6 millions avec Jean-Paul II au Mexique pour la béatification de cet Indien qui a vu la Vierge. Les plus grands rassemblements de jeunesse du monde, les plus grands rassemblements du monde sont ceux de l'Église. C'est le Christ qui est vivant et qui est jeune éternellement. Alors pour être jeune, il faut vivre des dons du Saint-Esprit. Et c'est mon dernier point. Ces dons, vous les connaissez, mais je vais vous les rappeler à titre documentaire. Il y en a 3 qui fortifient notre volonté et 4 qui fortifient notre intellect. Les 3 qui fortifient notre volonté sont la force, la piété et la crainte de Dieu. La force, elle nous est nécessaire dans un monde de contradictions, un monde matérialiste et pourri qui s'en va à sa perte. Alors il faut remonter le courant, il nous faut beaucoup de force. De force pour établir le règne de Dieu, d'abord dans notre cœur. Ensuite, il vous faut le don de piété. Le don de piété qui est celui qui vous porte à Dieu, celui qui vous a amené ce matin à la messe, celui qui vous fait penser à Dieu, celui qui vous fait vous signer devant une croix ou un cimetière. Bref, ce don de beauté, ce don de jeunesse qui fait comme les petits-enfants qui se portent naturellement. Ici, c'est surnaturel, vers leur père et leur mère. Enfin, le troisième don qui fortifie la volonté, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est un don magnifique, qui n'est pas du tout une peur servile de Dieu, car nous n'avons pas peur d'un mauvais coup, n'avons pas peur que le bon Dieu nous punisse, comme on le dit honteusement. Non. Mais nous avons peur de perdre son amour. La crainte de Dieu, c'est le sentiment qu'expérimentent tous ceux qui connaissent l'amour. C'est-à-dire la crainte de ne pas être à la hauteur, la crainte de perdre ce bien. Ce n'est pas la peur d'un mal, c'est la peur de perdre le bien. La crainte qu'éprouve Pierre envers le Christ quand il lui dit « Je ne suis qu'un homme pécheur, m'aimeras-tu quand même ?» Alors oui, il nous faut ce sentiment qui nous fait concevoir que Dieu est tout et que nous attendons tout de lui. Voici pour les trois dons qui fortifient notre volonté, il y en a encore quatre, ceux qui fortifient la dimension intellectuelle de notre âme. D'abord le don de science. Il y a beaucoup de science sur Terre. Mon Dieu qu'il y a beaucoup de science. Moi qui enseigne à des classes préparatoires, je le sais, on met beaucoup de choses dans sa tête. Mais parfois, beaucoup de choses dans le désordre. Beaucoup de choses inutiles également parfois. Alors bien sûr, je ne veux pas vous décourager des sciences profanes, il faut étudier beaucoup. Mais il nous faut avoir ce don de science pour ordonner toutes les choses de ce monde à Dieu. Comprendre à travers le monde profane ce qui vient de Dieu et comment il va y retourner. C'est ce à quoi sert le don de science. Le don d'intelligence, lui, est porté aux choses de Dieu. Dans la contemplation, la méditation que vous faites de l'Écriture, il vous faut le don d'intelligence pour comprendre. Peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience, vous savez, on lit un texte pour la 10e, 20e, 100e fois, et d'un seul coup, on comprend quelque chose. C'est le don d'intelligence qui nous ouvre l'intelligence des Écritures. Le don de conseil, c'est celui qui nous permet de discerner, un don indispensable à l'action. Discerner en vue de Dieu. Dire quelle doit être mon action aujourd'hui pour me porter à la plus grande gloire de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de mon âme, la béatitude. Nous avons besoin de savoir, de reconnaître. Enfin, le dernier don est peut-être, pour moi, celui qui est le plus supérieur. C'est le don de sagesse qui nous fait goûter les choses de Dieu. Le sage arrive à une contemplation qui est paisible et qui fait goûter la sapience, c'est le sel aussi, la saveur, sapere et sabere, c'est la même origine, ce qui donne du goût à tout. Voilà, avec ce don que vous allez recevoir encore une fois, si vous le demandez, la sagesse qui va vous permettre de vivre pleinement de Dieu déjà maintenant. Alors, avec l'Église, supplions humblement le Seigneur qu'il fasse de nous les réceptacles de son esprit. Le bras du Seigneur ne s'est pas raccourci, il se poursuit jusqu'à la fin du monde. La Pentecôte de l'Église n'est pas terminée, elle se poursuit jusqu'à la révélation totale des fils de Dieu. Priez pour que vous soyez les ouvriers de cette coopération, les coopérateurs de l'Esprit Saint, que vous y soyez agrégés, non pas associés, mais vraiment unis à lui. Ainsi soit-il.